RCC, l'ITV Calvez, animé par François Colombani.
Salut François.
Salut Nagui, comment ça va?
Ça va.
Chers auditeurs, bonjour sous cette chape de plomb. On est le 26 juillet, j'espère que tout va bien. C'est la dernière de la saison. On clôture en belle compagnie, puisque j'ai avec moi Jennifer Cassandre et Véronique Astolfi. On reprendra le 13 ou le 20 septembre, ça dépendra des congés des uns et des autres. Hein. On est en plein JO, donc c'est un petit peu comme moi, je suis en forme tous les 4 ans, là je suis une forme olympique. On va commencer de suite par Jennifer, parce que Jennifer est très occupée, c'est Emmanuel Macron. Elle est un peu stressée en plus, donc tout va bien se passer. Donc, co-organisatrice avec son humoriste de mari, Redouane Bougueraba, du Calvi Comedy Festival. On est à J-2, la tension monte, le téléphone ne fait que sonner. Comment ça va, Jennifer?
Alors déjà, merci beaucoup, François, de me recevoir. Ça va très bien. Je suis un petit peu dans le stress, c'est clair. Je ne vais pas te cacher que c'était assez compliqué avec les nouvelles mesures, notamment. Déjà, organiser un festival, c'est relativement compliqué. L'organiser dans cette ville qui est vraiment très, très, très chère à mon cœur, ça a rajouté du stress et de la pression. Et puis, toutes ces mesures qui sont arrivées avec le Covid et le pass sanitaire, alors là, je crois que ça m'a achevé.
Banco,
bon, on y est, on arrive au bout. J'ai juste pas envie de décevoir les Calvés. J'ai vraiment, vraiment envie de faire de ce festival quelque chose de super. Parce que les commerçants, parce que la mairie, parce que tous ceux qui m'ont aidé à mener ce projet, bah, ils attendent de moi quand même quelque chose de sympa et je leur dois quelque chose de sympa parce que moi, j'y suis finalement pas pour grand-chose. En fait, c'est surtout Redouane qui a fait une programmation géniale et puis c'est tous les locaux qui ont fait que c'est possible parce que tu sais très bien que si c'est pas ici à Calvi, c'est impossible. Ce qu'on a fait, c'est juste extraordinaire.
Alors, je rappelle quand même, parce que bon, les gens, je ne sais pas s'ils visualisent, mais Kev Adams, Maxime Gasteuil, Laurie Perret, Camille Lelouch, j'en oublie, hein, Gad Elmaleh, Pido qui revient sur scène.
Pido, mon idole.
Voilà. Oui, surtout notre génération. Donc là, c'est un gala filmé par C8 le dernier soir avec Cyril Hanouna. Le théâtre de Verdure, bien sûr. On va dire que c'est un petit peu le paname de l'humour qui se déplace à Calvi pendant 3 jours. Alors, tu nous as parlé un petit peu de l'organisation qui était compliquée. Moi, je veux juste poser des questions. Tu nous as parlé, il y a un choix du cœur, il y a l'organisation, c'est chaud, mais on veut avoir un petit peu le ressenti des artistes. Est-ce qu'ils sont chaud bouillants?
Alors écoute, nous...
Est-ce que ça a été facile de les convaincre?
Oui, super facile. Vraiment, honnêtement, très facile. Le premier à avoir dit oui, c'est Gad, parce qu'il était en tournée avec Redouane. Et Redouane lui dit, voilà, moi, ma femme est calvaise, tout l'été, on va à Calvi, il faut absolument qu'on fasse un truc là-bas. Et Gad a l'habitude de venir en Corse, il connaît la Corse, il connaît Calvi. Il connaît les Corses également. Et ça a été le premier à dire oui. Donc, je ne te cache pas que derrière, tout est beaucoup plus facile. Quand Gad dit oui et qu'il est le premier à dire oui, ben Kev dit oui. Et puis, Romane Fraissinet, qui est l'acolyte de Redouane, dit oui. Jimo également, qui est très, très proche de Redouane. Donc, en fait, c'est plus une bande de copains.
Ah, on voit sur les snaps. Hein,
ouais, ils sont vraiment très, très copains. C'est plus une bande de copains qui dit, bon, allez, Redouane fait un truc. Venez en l'aide, c'est la première édition. Il faut tous qu'on soit présents et qu'on fasse une méchante prod pour que, en fait, ça fasse un peu de bruit et ça ait des répercussions pour la suite, quoi.
Alors, on va parler des choses qui fâchent. On va parler de la pandémie, hein, bien sûr.
Oui.
donc, festival soumis au pass sanitaire. Est-ce que, voilà, pour rassurer un petit peu les gens, parce que les gens qui me demandent comment ça va se passer, comment ça va ci, comment ça va là, est-ce que, donc, ça fonctionne sous pass sanitaire, comment ça va marcher?
Alors écoute, le pass sanitaire, c'est pas très compliqué. Hein. C'est vraiment important à mon sens parce qu'il faut surtout pas que quoi que ce soit se passe dans le festival. Alors de base, ça va être assez compliqué de toute façon qu'il y ait un cluster dans le festival, sachant que c'est à ciel ouvert, que les gens sont assis, qu'ils portent tous le masque. Donc de base, on n'était pas dans un, si tu veux, c'était pas un danger.
On n'est pas sur une configuration.
Ouais, on n'est pas sur une configuration très dangereuse.
Je rappelle qu'à Fouriani, samedi, il y avait 8000 personnes en ouvert et masquées. Hein, donc
ouais.
Genre, là, on est quand même sur une jauge de 10%, ouais, quelques 10% de 8000. Hein.
Alors, le pass sanitaire, c'est quoi? C'est un moyen de prouver que finalement, nous sommes sains et nous ne sommes pas porteurs du Covid. Il y a plusieurs manières de le prouver. Soit on a un test PCR de moins de 72 heures, soit on a un test antigénique de moins de 48 heures. Oui, tu me regardes comme ça, je peux rentrer au ministère de la Santé, j'ai toutes les notions de tout.
Soit... Tu ne feras pas pire qu'Olivier Véran. Ouais.
Soit on a le vaccin, donc deuxième dose à jour de plus de 15 jours, soit le Johnson de plus de 4 semaines, qui est une seule dose. Soit un seul vaccin, mais la sérologie. Donc tout est rentré sur l'application, on a un QR code, il y a des gens qui sont à l'entrée qui vont scanner ce QR code. Il y a des professionnels de santé sur place pour ceux qui n'auraient pas pu avoir l'occasion de faire un test antigénique, qui le feront sur place. Toute la journée, l'après-midi, durant toute la durée du festival. Donc vraiment, il y aura, on ne déroge pas, vraiment. Il y aura absolument tout le monde qui sera scanné parce qu'on ne prendra aucun risque. Mais en même temps, ce n'est pas très contraignant parce qu'un test antigénique, on le fait en 5 minutes, tu vois. Il n'y a rien de compliqué.
Alors, dernière chose, comment on gère un petit peu, parce que là, ils vont être là pendant 3-4 jours,
ouais.
Tous ces égos, tous ces artistes, parce qu'il va falloir les occuper, parce qu'en dehors du moment, ça c'est comme les footballeurs, voilà, il y a le moment où ils rentrent sur le terrain,
ouais.
Et il va se passer...
Tu veux savoir ce qu'ils vont faire, c'est ça ?
Allez, savoir un petit peu ce qu'ils vont faire, est-ce qu'on peut les croiser ? Il y a des gens qui voudront faire des selfies, il y a des gens qui voudront les voir.
Alors écoute, déjà, ils ne mangeront que dans les restaurants à Calvi. Donc oui, les croisés, ça va être super, super facile parce qu'on a des restaurants partenaires, La Piazzetta, Via Marine, Le Comptoir, Cielo e Mar. Tous les restaurants partenaires sont vraiment dans le centre de Calvi. Ils sont logés dans les hôtels de Calvi. Ensuite, on va leur faire un petit peu de bateau avec Tramaremonti, un petit peu de quad. On va les amener au château du Prince Pierre pour qu'ils voient un petit peu les vignobles là-bas, les plages privées. Le programme, il est juste génial. Je crois qu'ils viennent plus en vacances que bosser.
Ouais,
tu
viennent kiffer, ouais.
Ouais. Et puis, c'est le but qu'ils se disent « Waouh, mais c'était trop bien, Calvi. Il faut absolument qu'on y retourne. » Voilà.
Alors, on va rappeler quand même qu'il reste quelques places pour le premier et le deuxième soir.
Oui, 28-29.
On va rappeler les endroits où on peut avoir ses places. On va rappeler d'ailleurs qu'il y a un jeu, que si les gens montent à la Citadelle, il y a 4 places. Et les JO, on fait un petit effort, on met ses baskets, on monte. Hein.
Oui. Alors, je peux...
Maintenant.
Ouais,
il monte maintenant en tant qu'affaire. Hein.
Alors, je peux peut-être en profiter pour remercier Mme Astolf, qui est toujours très, très présente pour toutes les activités calvaises. Et voilà, donc Mme Astolf, il nous a acheté des places pour les offrir aux calvés. C'est juste extraordinaire. Donc, elle soutient et les calvés et l'assaut. C'est génial.
Donc, Jennifer, moi, je te remercie parce que je sais que tu es un petit peu prise par le temps.
Oui, merci à toi, François.
Je te remercie de m'avoir tendu la main, de m'avoir donné toutes les infos à l'époque où c'était caché, de m'avoir informé, de m'avoir tout dit. Merci d'offrir cet événement à Calvi.
Mais merci au Calvi.
Je ne suis pas le maire, hein, mais bon, je me permets de me parler à leur place.
Merci au Calvi,
et
vraiment.
Et de t'imposer vraiment, parce que je pense que c'est quand même un tour de force, de faire en sorte que ce soit les calvés, les restaurateurs, les cafetiers, les artisans, les commerçants qui en bénéficient.
Ouais, mais c'est grâce à eux tout ça, je t'assure. Moi, j'ai juste rempli des papiers. Eux, ils ont rendu ça possible.
Et je pense que c'était une démarche qu'il fallait souligner et féliciter.
Ouais.
Et on avait besoin de rire en ces périodes-là, de rester positif sans jeu de mots. on souhaite bien sûr une longue vie, que ça se passe bien, une longue vie au festival. On t'embrasse et puis nous, on est appelés à se revoir.
Merci donc, François, voilà. Merci Anto. Et puis une bonne journée et je vous vois à partir du 28.
Pas de souci.
Merci, bye.
Alors maintenant. Ah, elle était stressée. Hein. Donc là, on peut dire que c'était un exercice réussi, Anto.
Tout à fait. Écoute, elle était stressée, mais finalement, elle s'est bien débrouillée. Hein.
Elle s'est bien débrouillée, une championne. Elle n'a plus de leçons à apprendre. Donc maintenant, c'est au tour de Véro. Alors, Véronique Astolf, que tout le monde connaît. Hein. Je ne vais pas te présenter, hein, pas toi. Je rappelle quand même qu'elle a offert 16 places aux auditeurs de Radio Calvi Citadelle tout au long de ces 5 dernières semaines. Alors, d'abord, je vais reprendre le cours de l'émission. Tu sais qu'on est le 26 juillet et je fais toujours un petit laïus sur ce qui s'est passé un 26 juillet. Alors, en 26 juillet 1847, le Liberia a été la première colonie à déclarer son indépendance. En 1891, la France annexe Tahiti. En 1908, il y a eu la création du FBI. Alors, elle aurait été inspirée par les vieux Corses sur les places. Tu vois, c'est comme ça qu'ils sont inspirés. En 1965, il y a eu l'indépendance des Maldives. Alors, un 26 juillet Il y a eu la naissance de Stanley Kubrick, hein, il y a l'anniversaire de Mick Jagger en 77 ans, et là, Sandra Bullock, alors des belles femmes, hein, là, Nagui, des très très belles femmes, Sandra Bullock, 56 ouais. ans, hein, 56 ans, je valide toujours, hein. Mm-hmm. Kate Beckinsale, 47 ouais. ans, hein, Céline, hein, d'Underworld.
Évidemment.
C'est le nouvel an dans le calendrier Maya et on souhaite une bonne fête aux Anne et aux Joachim. Alors, je vais bien sûr remercier Chez Tao qui a offert à Radio Calvi Citadel
pas mal de disques, merci.
Pas mal de CD, donc on va pouvoir faire un petit peu de tri, tout ça, on va se régaler. Une petite pensée à la Sardaigne qui est en proie à d'énormes incendies. On leur envoie de la force. Cette semaine, il y a eu le décès. Alors là, pour moi qui...
Jean-Yves Lafesse ?
Ah ouais, voilà. Mmh. Voilà. Donc, oui.
64 ans.
64 ans, la maladie de Charcot. C'est toujours trop tôt pour partir. Et ça m'a fait beaucoup de peine. Période estivale oblige, on va embrasser les nouveaux nationaux. C'est ceux du 27 juin dernier, tu vois, qui postent des publicités pour du Airbnb. Ça, je trouve ça magnifique. Et il y a eu un courrier des auditeurs. Alors toi, tu le connais un peu, Véro. C'est notre Argentin local qui habite à la Citadelle, Lucho. Lucho, co-créateur de Gin from the Pump. Alors, bon, on va considérer que c'est un chitadelach maintenant. Il m'a appelé, il était en colère. Il était chafouin. Il était très chafouin. Alors, on partage le même avis. Donc, j'étais très ravi qu'il m'appelle pour ça. Alors, c'est notre Argentin préféré en même temps. C'est quasiment le seul de la ville. Hein, donc, c'est un peu facile. Il m'a envoyé les photos... du petit monument de Christophe Colomb. Alors, je ne sais pas si vous voyez cette petite stèle là qui est enclavée nulle part. Elle était particulièrement dégueulasse, sale, pas du tout mise en valeur. Donc, il est censé être né là. Et alors, c'est sans doute le fait que s'il n'y avait pas eu Christophe Colomb, lui, il porterait peut-être toujours des feuilles de palmier en guise de slip. Hein ? Parce que sinon, on n'aurait pas découvert l'Amérique. Mais on est censé avoir la maison natale et c'est vrai que c'est un petit scandale le fait qu'on ne maximise pas à bloc, à la Citadelle en tout cas, je ne sais même pas si on peut l'appeler ce monument parce qu'il n'est pas très 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 mis en valeur en même temps. On ne met pas en valeur l'aéroport, on ne met pas en valeur beaucoup de choses. Donc, est-ce que ça choque ? On va arriver à toi, Véro. Un personnage. Voilà. Alors, elle ne laisse pas indifférent.
Ah, c'est clair.
Voilà. On peut dire un petit peu grande gueule ?
Très grande gueule.
Très grande gueule.
Assumée.
Véro, comment ça va ?
Ça va.
Ça va très bien ?
Ça va plutôt bien.
Plutôt bien. Alors, première question à chaque fois dans l'émission, je la pose toujours. Si je dois te poser la question comme ça de but en blanc, quel est ton premier souvenir qu'il y avait ? La première chose qui te vient à l'esprit, c'est lequel ?
Souvenir Calvé.
Oh, la première chose, quand tu remontes le plus loin possible, qu'est-ce que tu te remémores ?
Il y a tellement de choses que je peux me remémorer.
Alors, attends, on va approcher. Alors, on attend, hein, je te laisse réfléchir.
Mes années collège ?
Ah, la scolarité, on va y venir. Quel type d'élève t'étais ?
Moyenne, mais turbulente, comme maintenant finalement, hein, chieuse, bagarreuse, beaucoup avec les garçons, parce que moi j'étais un garçon manqué, donc j'avais beaucoup de difficultés à lier des liens avec les filles. Voilà, en tant que garçon manqué, moi il faut savoir que je faisais sport avec les filles, mais que je faisais sport aussi avec les garçons. C'est-à-dire que je grillais les cours de technologie que nous avions à l'époque parce que ça ne me passionnait pas. Et comme j'étais une passionnée de sport, là en ce moment, exceptionnellement hier soir, je n'ai pas regardé parce que je voulais m'endormir tôt pour être là en forme. Mais sinon, je regarde les Olympiques, c'est ma passion.
Alors, scolarité, tu m'as parlé du collège. Après, le lycée, donc du coup, le lycée, c'était où, toi? C'était à Bastia?
Alors, le lycée, c'était à Bastia. Pour moi, ça a été très compliqué parce que, en fait, moi, je voulais être athlète de haut niveau. Moi, je visais effectivement les Jeux Olympiques. Ça tombe bien. J'étais très forte. Je le reconnais. Enfin, je veux dire, c'était une évidence. Hein,
alors, c'était dans quelle discipline?
En athlétisme.
En athlétisme.
Et donc, même avec M. Pierre, donc mon professeur de l'époque, donc j'avais envisagé de faire Font-Romeu, qui est une école d'athlètes, qui était à l'époque une école d'athlètes.
Qui l'est toujours, hein, c'est toujours une référence.
Toujours, hein. Mais à l'époque, ici, on n'avait pas de concours interrégion. Enfin, on était un peu les pays pauvres. Hein, je veux dire, moi, j'ai quand même 60 ans, il y a 45
non,
ans.
Non, tu ne les fais pas.
Il y a 45 ans, c'était pas, c'était 40, ouais, c'était pas le top quoi. Et comme on n'avait pas de concours interrégion, ils n'ont pas voulu me prendre.
Et donc du coup, le passage, du coup, c'était l'internat.
Alors du coup, j'ai quand même demandé à redoubler ma troisième avec mon BEPC et tout. J'ai dit mais non, moi je vais pas à la Bastia, j'ai rien à faire, ça m'intéresse pas. Moi, ma vie, c'est le sport. Et puis, donc, ils m'ont autorisé, étonnamment. Donc, j'ai fait une année à rien foutre, quoi, en fait, hein, à faire la folle, à perturber les cours. Enfin, voilà, quoi. Moi dans toute sa splendeur. Puis, l'année d'après, ben, j'ai bien dû aller à Bastia, parce que, bon, ben, pas le choix. Hein, il fallait bien qu'il fasse quelque chose. Et puis, bon, ben là, voilà aussi, j'ai pas... Ouais, j'ai bossé, parce que j'étais bonne élève, quand même. Mais bon, j'étais en français. Alors, j'adorais ça, mais voilà, c'était pas mon truc.
C'est plus les études qui te poursuivaient que toi qui poursuivais les études?
On se poursuivait mutuellement, voilà, entre les copains, les sorties, voilà. Voilà, je rentrais peu à Calvi à l'époque, parce que tous mes potes étaient sur Bastia. Mais ça, voilà, ça a été une année difficile pour moi, parce que c'était une année où je savais que j'allais... pas pouvoir faire ce dont je rêvais.
Alors, on va parler des premières expériences de boulot, puisque quand on arrive au lycée, on commence un petit peu les saisons, hein, dans cette station balnéaire. Mm-hmm. Par quoi tu as commencé?
Alors, ça va faire que tout le monde, peut-être que des gens ne le savent pas. J'ai commencé à travailler en face de la Légion, en tout bien tout honneur. J'ai travaillé à la station qu'il y a en face de la Légion, et à l'époque c'était Jean-Michel Agostini qui la tenait. C'était un ami de mon père.
D'accord, donc tu bossais là.
Donc j'étais vouée, je pense, ma vie était vouée à être dans une station à un moment donné.
Oui, on va y venir, parce qu'après...
Et voilà, ça a été mon premier job, parce qu'à l'époque on servait l'essence, hein, il n'y avait pas de libre service. On lavait le pare-brise, enfin bon.
Il y avait la pompe à mélange pour les scooters.
La pompe à mélange, voilà. Bon, c'était une belle expérience, hein, je veux dire, c'était sympa.
Et donc, du coup, station-service, ensuite?
Ensuite, je crois que je n'ai pas fait autre chose, je ne me souviens pas.
Donc, on part directement sur AXA?
Oui, parce que quand j'ai fini le lycée... Bon, j'ai attendu mes passages, puis de toute façon, ça me gonflait. Il faut être clair, je n'avais pas envie, il n'y avait rien qui me passionnait. Donc, il y avait un gars qui s'était installé à Calvi, assureur, à l'époque. Et là, j'ai dit, oh ben ouais, je vais aller voir, je vais faire une saison là, et puis...
Pas puis, du voilà. Tout convaincu.
Non, parce que secrétaire, moi, je vivais dehors, je vivais en short... Je vivais sur les stades, c'était ma passion, quoi. Je veux dire, moi, il n'y avait que le sport qui comptait dans ma vie. Le reste, pour moi, c'était... voilà, donc j'ai travaillé pendant... Je me suis dit, bon, allez, je fais les 3 mois d'été, ça va m'occuper, et puis bon, ben, on verra bien, on verra. Moi, je suis très fataliste, donc je me suis dit, on verra ce que ça donne. Et c'était en juin 78, et depuis, ben, j'ai pu lâcher l'assurance.
Alors, tu passes du coup tous les échelons?
Alors, tous les échelons, ouais, c'était plus un travail sur le tas, hein, parce que bon, moi, mon patron, il est parti 3 mois en bateau, il m'a planté à l'agence. L'assurance, je ne savais même pas ce que c'était, je ne savais même pas comment ça marchait, enfin, j'avais aucune idée de ce que ça pouvait représenter. À l'époque, il faut savoir qu'on avait, à part le téléphone, on n'avait rien, hein. on avait peut-être le Minitel, et encore, je ne sais même pas, en 78, si on avait le Minitel. Donc, c'était bon, vraiment...
On a du mal à avoir la fibre, alors. Voilà. Et la 5G, alors.
Exactement. Donc, c'était vraiment les prémices, mais je me suis débrouillée, hein, comme je me débrouille toujours. Hein, j'ai réussi à bosser. Alors, étonnamment, ça m'a plu, parce que c'est rock'n'roll, quand même, hein, l'assurance, hein. C'est très rock'n'roll, hein. On a affaire à diverses personnes. Et je pense que c'est ça qui m'a passionnée. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un dossier qu'on va traiter avec un avocat, avec un notaire, et puis avoir affaire au papy du coin qui vient pour son contrat d'habitation, qui a ses petits problèmes de dégâts des eaux, puis qui n'a que nous. Parce que des fois, les parents sont pas là, les enfants ne sont pas là, donc ils sont un peu perdus. Donc, on a affaire à toute la population et je pense que c'est ça qui m'a passionnée. Et puis, je me suis vraiment, vraiment, vraiment passionnée pour ce métier.
Alors, moi, je me souviens, alors en 92, l'agence, elle était...
En bas au boulevard.
Le passage entre employé et directrice d'agence, il se fait quand ?
Il se fait en février
1993. Et là, on se dit quoi à ce moment-là ? C'est là, maintenant, on ne rigole plus
Alors, moi, j'ai travaillé au départ par besoin, parce que j'avais besoin de travailler. Après, j'aurais pu ne pas travailler, mais bon, moi, je ne suis pas quelqu'un qui reste à la maison. Moi, je suis quelqu'un de terrain, il faut que je voie du monde. Et je suis restée par passion. Et puis quand le dit patron, à un moment donné, m'a dit « Bon, ben, je vais partir », je dis « Ah, vous partez en vacances ?» Enfin, je dis « Non, je démissionne. »« Ah, vous démissionnez. Ah bon ? » Donc, bon, ben, je fais quoi ? Donc, soit j'arrêtais, et puis j'allais à la station, hein, j'allais bosser à la station avec Alain, soit je rachetais. Donc Alain, il m'a dit « Écoute, ça fait des années que tu es là, que tu bosses, la clientèle, elle est presque la tienne. » Peut-être acheter et puis voilà. Donc de là, alors beaucoup se posent des questions, hein, parce que bon, la question suprême, c'est « Ah, mais t'as pas d'enfant ?» Non, on avait dit « On aura des enfants à partir de 30 ans. » Ben moi, mon enfant, ça a été mon agence.
parce que entre avoir un patron au-dessus et le devenir, il y a les responsabilités, il y a les embauches. Alors, je rappelle que c'est quand même toujours embaucher des gens d'ici.
Toujours
embaucher des anciens. Non, je le signifie parce qu'il y a des... c'est quand même assez important et pas très courant malgré tout. Ça va faire donc 78. On est sur plusieurs décennies. Est-ce que là tu arrives à en avoir ras-le-bol ou pas ?
Alors non. Bon. Je le sais, hein, je veux dire, j'ai des problèmes de santé, donc j'ai un peu laissé là, les filles gérer l'agence, ça se passe très bien. Je reconnais que là, bon ben voilà, je vais sur mes 61 ans, je commence à me dire qu'effectivement, peut-être, mais voilà. Alors je veux vous dire un scoop, puisque voilà, il y en a quelques-uns qui le savent, d'autres ne le savent pas. Mais d'ici 2023, je vais sûrement m'associer à ma principale collaboratrice et assistante et ma fille de cœur, qui est Flavia Bertini.
Ah, donc il y a de la promotion dans l'air.
Ben, elle va devenir, comme moi, agent d'assurance, parce que je pense qu'elle le mérite amplement. Et que, donc ça, c'est le scoop, hein, parce que bon, voilà.
C'est combien d'années avec Flavia ?
Je ne sais même plus.
Quand on aime, on compte pas ?
C'est ça, quand on aime, on compte pas.
On va parler d'une deuxième passion, c'est la passion des voyages.
Ah ben.
Parce que tu as été un petit peu partout.
Ah oui.
Je crois me souvenir, parce que j'ai un peu scruté quand même ton Facebook pour préparer l'émission. Il y a les JO de Pékin.
Les JO de Pékin, c'est... Je pense que quand on fait... Moi, j'ai eu la chance de faire les Paralympiques. C'est quelque chose qui m'a marqué. De voir ces athlètes, la force qu'ils ont. On est parti avec la Fédération d'e-sport. Je peux même pas expliquer et j'aimerais les refaire à Paris.
Mais alors ça c'est tu l'as fait via quel billet, via AXA ou c'était perso?
Ah non mais ça c'est mythique, l'histoire elle est mythique. On a AXA à une association caritative comme toutes les grosses entreprises qui s'appelle AXA à tout cœur. Bon, moi, vous connaissez mon cœur, hein, c'est pas un cœur, hein, je pense que c'est un artichaut énorme. Et la section de Marseille appelle ma collaboratrice en disant, voilà, on vend des tickets Tombola pour la Fédération Handisport, parce que bon, ben, y a des difficultés financières, il faut le remettre, c'était en 2008, c'était pas évident. Les Paralympiques, c'était pas trop mis en avant. On cachait un peu, je veux dire, ces personnes, je veux dire, qui étaient en situation de handicap.
Puis il y a eu le coup de Tur, c'était aussi le coup de Pistorius à l'époque qui avait.
Ouais, c'est après quand j'ai discuté avec Jean de la Fédé, j'ai appris certaines choses. Et là donc il m'appelle en disant voilà on vend des tickets. Et moi, toujours la charitable, hein, Mère Teresa de Calvi, j'ai dit, bah, oui, j'ai dit à Thérèse, j'avais Thérèse à l'époque comme collab, j'ai dit, prends pour 200 euros de ticket, on s'en fout, c'est pour participer, c'est tout, quoi. Je veux dire, c'est moi, quoi. Et là, la fille rappelle en disant, mais tu sais, il y a deux tirages, je ne sais pas si elle pourra assister au premier. Elle dit, mais 200 euros, elle a acheté pour participer, elle s'en fout. Et puis voilà. Et puis au bout d'un mois et demi ou deux mois, ou un mois et demi, la petite réceptionniste que j'avais à l'époque me dit « Ah, il y a un monsieur... » Je ne prends jamais d'appel en direct. Je veux savoir pourquoi, comment. Bon, mes collaboratrices sont à même de gérer, donc je prends quand c'est nécessaire. Et je ne sais pas pourquoi, là, c'était un lundi matin, je devais être bien reposée du week-end. Elle me dit « Monsieur, Trucmuche, je ne sais plus son nom. » Et je prends l'appel et le gars me dit « Oui, bonjour, Madame Astolfi, voilà, je suis heureux de vous dire que vous avez gagné un voyage. » Oh, bon, je vous la fais courte parce que j'ai eu des mots qui étaient bons. Oh, je fais plus bon, hein, vous m'emmerdez le matin, lundi matin, qui c'est qui me fait encore une blague? Je dis « Oh là 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 là, j'ai vrai que j'ai que ça à faire le lundi matin. » Non, mais Madame Astolfi, ah ouais, j'ai dit « C'est bon, allez, c'est bon, ça va, là, allez, ça va. » Et là, le monsieur voit que je suis complètement à l'ouest et me dit « Mais c'est monsieur Trucmuche. » D'AXA à tout cœur. Ah, oui, bonjour monsieur, oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il me dit, ben voilà, vous avez acheté des places pour AXA, pour la fédération? Je dis oui. Il dit, ben vous avez gagné un voyage. Il y avait 5 voyages à gagner, vous avez gagné un des voyages. Il y avait 5 places pour 2 personnes pour les Paralympiques à Pékin. Beijing, puisque ça a été renommé, mais bon. Et donc, nous voilà partis à Pékin pour cette belle histoire.
On va parler un petit peu aussi de celui qui t'accompagne depuis longtemps.
Ça fera 40 ans d'octobre l'année prochaine.
Alors, 40 ans, c'est les noces de quoi?
Aucune idée.
On va chercher.
Cherche pas regarder.
Attends. 40 ans. Alors, 40 ans de mariage, c'est
40 ans de mariage.
Noces d'émeraude.
Ah oh bah tiens, tu en seras d'une émeraude.
T'es mal barré. Là. Voilà, assez cadeau, tu le sais moi. Les noces d'émeraude, on va parler. Toujours là, toujours... Moi, je veux savoir comment s'est passée un petit peu la rencontre.
Ouh. Alors, il faut savoir qu'on est les opposés. Moi, très sportive, très criarde, enfin, avec tout ce que ça comporte. Et lui, très discret, pas sportif, enfin, les opposés. Pas du tout le style de gars que je fréquentais. Mais bon, voilà, bon, on n'avait pas d'attirance l'un pour l'autre, mais vraiment pas. Pas du tout. Les opposés, puis finalement, les opposés s'attirent, hein, on le sait, hein, je veux dire. Donc, j'ai voulu le rabibocher avec une copine, enfin bon, bref. Et puis, il m'a pris dans ses filets, et puis ça fera 43 ans. 44. Ouais, 43 en octobre. Et
il est bon pour une émeraude, hein?
Il est bon pour une émeraude.
Moi, je l'ai noté, hein.
Et puis, mais en plus, c'est fou parce qu'on est tellement complémentaires.
Ah tellement oui, complémentaires. Il n'y a pas l'un sans l'autre, hein.
Et voilà, il n'y a pas l'un sans l'autre. On s'est toujours soutenus, lui dans mon métier, moi dans le sien. voilà, on a toujours été vraiment en connexion et voilà, je pense que c'est pour ça aussi que ça fonctionne. Hein.
On va parler d'un moment important de ta vie. On en a un petit peu parlé quand on était ensemble. On va faire un petit peu de prévention. Je pense que tu es la meilleure personne pour en parler. Tout le monde est au courant que tu es touché par une maladie qui touche énormément de personnes.
Hein. Ah oui.
Donc, tu as fait le choix de ne pas le cacher.
Ben, j'ai fait le choix de ne pas le cacher parce qu'on est des gens connus. J'ai quand même une entreprise sur Calvi. Les gens s'inquiètent. Les gens parlent parce que bon, ben, on le sait, hein, je veux dire, c'est notre ADN, on est comme ça, chacun veut dire mieux que l'autre. Et je ne voulais pas qu'on parle de ma maladie en racontant n'importe quoi parce que j'ai tellement entendu sur des tas de gens que ça, des fois, ça me dérange, ça me choque. Donc, je me suis dit, bon, aujourd'hui, on a des réseaux sociaux, en bien en mal, peu importe. Moi, j'ai décidé... D'abord parce que je voulais essayer de sauver des vies. Parce que moi, j'ai fait la connerie, la grosse connerie de ne pas faire le test qu'on nous envoie à partir de 50 ans, là, machin, gna gna gna. Donc, je me suis dit, OK, je ne l'ai pas fait, bah, tant pis, hein, tu payes, hein, je veux dire. Et tout.
Alors, question, mais pourquoi ? C'est trop de boulot, pas le temps
Parce que demain, ouais, on va voir demain, et puis Véro toujours en pleine forme. Moi, j'ai jamais été malade. Je suis pas quelqu'un de malade. J'ai jamais eu de problème de santé. Donc, on le fera demain, on le fera après-demain. On part en vacances. Quand on rentre, quand on repart, bon, bref. Et puis, je l'ai pas fait. Et puis, bing, ben voilà. Quoi. Je veux dire, ça tombe sur la tête. Et puis, ben là, tu te dis, mais faut être con. Enfin, vraiment, parce que on a. Alors, il y a peu de cancers qu'on peut détecter, mais au moins faire ce qu'on a la possibilité de faire. Et là, je me suis dit, non, je vais en parler, je vais expliquer ce qui se passe, mais je vais surtout dire aux gens, faites pas comme moi. Quand vous recevez votre petit truc, là, votre lettre en disant, voilà, cancer colorectal, faites vos petits besoins dans l'enveloppe, vous l'envoyez, et puis on vous dira s'il faut aller plus loin ou pas. Il faut le faire.
Il y a aussi les cancers du sein, d'aller aux mammos.
Il y a les cancers du sein. Moi, j'ai toujours fait les mammos, les frottis, enfin, tout ce qui va avec parce que c'était important. Mais c'est vrai que le cancer colorectal, ça me passait au-dessus. Quoi. J'avais pas... Mais c'est simplement parce que ouais, je le ferai. Puis on ne le fait pas. Alors, il faut savoir que j'ai une... Enfin, tout le monde l'a vu donc, sur les réseaux sociaux. J'en parle beaucoup. Et je suis fière de pouvoir dire que j'ai au moins sauvé peut-être une personne. Alors cette personne, elle est à l'OUM, tout le monde la connaît. Elle est prête même si demain je veux faire des conférences à témoigner. Moi, quand je lui ai dit, attention, j'ai dit, il faut les faire, oui. J'ai effectivement, elle a reçu, parce qu'elle a plus de 50 ans, elle a reçu le fameux papier. Et là, elle a été faire directement. Elle a été faire directement à l'examen et elle était impactée. Alors, c'était un premier degré, c'était simplement des petits polypes. Mais du coup, ils ont pu les lui enlever tout de suite. Et comme elle me dit toujours, tu m'as probablement sauvé la vie. Parce que je ne l'aurais pas fait.
Ouais, donc, c'est quand même important.
Je ne l'aurais pas fait. Bon, je peux vous dire qui c'est parce qu'elle en est tout à fait fière. C'est mon amie Denise du Café des Amos. Et aujourd'hui, elle me dit toujours, mais heureusement que tu m'en as parlé. Parce que moi, mais on est tous pareils. C'est pas quelque chose qui nous touche, le cancer colorectal. On n'a pas l'impression que ça peut nous atteindre. Alors que c'est un des cancers... qui aujourd'hui, hein, je veux dire, est le plus présent, hein, je veux dire, parce que ça touche quand même une grosse partie du corps. Hein.
Alors aujourd'hui, on suit un petit peu, même beaucoup, ton combat ouais. sur les réseaux, parce que là-dessus, tu es assez limpide.
Tout à fait. Tous les deux mois, quand je fais mes contrôles, je veux que tout le monde sache ce qui se passe.
Et concrètement, comment ça va, là ?
Là, ça va. Aujourd'hui, ça va bien. J'ai eu 2 mois difficiles parce qu'en fait, bon, comme je le disais, on m'a découvert une métastase au bassin qui m'a beaucoup handicapée. C'est pour ça que vous avez pu me voir avec la jolie canne que m'avait offert mon mari. Alors, je faisais des petits sketchs, hein, je faisais Charlot, voilà. Mais bon, j'ai quand même pas mal souffert. Ça a été peut-être depuis août 2019 les moments les plus difficiles que j'ai vécu.
Oui, parce qu'on s'imagine pas, parce que sous ton côté un petit peu exubérante, toujours essayer de montrer le meilleur de toi-même.
Tout à fait.
Il y a des moments difficiles. Une fois, j'avais parlé à Alain et il était à l'aéroport et il m'avait dit, bon, cette femme-là quand même. Ouais. Je voyais vraiment non seulement du respect, mais de l'admiration. L'admiration parce que tu as toujours le souci de montrer ton meilleur visage. Je trouve ça vraiment très beau. Très beau parce que ça peut motiver des gens à se dire, voilà, il faut non seulement faire les tests et il n'y a pas de résignation.
Non. Voilà. Moi, Alors, j'ai fait le choix d'aller sur Paris pour diverses raisons, mais parce que j'ai de la famille, parce qu'il y a l'établissement, donc, qui est l'Institut Gustave Roussy, qui est le premier en France. C'est le cinquième hôpital mondial. Faut savoir qu'il y a d'imminents professeurs, dont aujourd'hui le professeur Fabrice Barlez, qui a été nommé directeur donc, du service médical de Gustave Roussy. Faut savoir que le professeur Barlez, il fait partie des 5 plus grands chercheurs au monde. C'est un corse. Il est de chez nous.
Oui, voilà,
et il était, il n'y a pas très longtemps, au Clos Rochebelle, pour une conférence. C'est un mec génial. Moi, j'incite tout le monde à la prochaine conférence à aller le rencontrer avec Doumé Barbolos. C'est quand même des gens de chez nous. Je veux dire, on a énormément de chance. Je veux dire, on n'a pas que 2 ou 3 Corses qui vont participer aux Jeux Olympiques, mais on a aussi des chercheurs qui sont là pour nous aider. Et ce gars est extraordinaire, extraordinaire. Moi, j'ai eu la chance d'échanger avec lui quelques instants. Donc, du coup, moi, je me disais, il faut que j'aille dans le meilleur. Je veux dire, je n'ai pas envie d'aller traîner à droite, à gauche. Donc, je suis allée à l'IGR, franchement. Voilà, pour moi, mon meilleur ami aujourd'hui, c'est l'avion.
Ouais, parfois, alors c'est le triste constat, c'est aussi un petit peu le meilleur hôpital.
C'est ça.
Parce qu'on est un petit peu dans un désert médical, on attend de voir un petit peu comment ça va évoluer tout ça. On va aborder les questions qui fâchent, justement, parce que tous ces... Alors, généralement, il y a une petite musique d'ambiance, on va te mettre, voilà. Sous le masque que tu portes et tout, est-ce qu'il y a un petit moment de ras-le-bol ou d'envie de laisser tomber parce qu'on se dit c'est pas possible, ça.
Ah ben alors moi non, parce que je me dis que parce que la vie vaut le coup d'être vécue et qu'il faut se battre à chaque instant. Il y a des gens pires que moi, il y en a des gens qui sont mieux, hein, je veux dire, il y a des gens qui sont moins touchés. Mais il y a des gens qui sont beaucoup plus atteints que moi par plein de choses. Et je n'ai pas le droit de baisser les bras. Je veux dire, d'abord parce que bon, ben, j'ai mon mari qui est là tout le temps. J'ai mes filles adoptives, mes filles de cœur, hein, je veux dire. Et je ne peux pas. J'ai les petits-enfants parce que ben, c'est devenu tous mes petits-enfants. Donc je peux pas abandonner tout ça. Je veux dire, c'est puis je pense que de toute façon quand on est atteint d'un cancer, déjà le fait de l'accepter, on a déjà fait une bonne partie du chemin, et le fait de positiver, on a déjà fait une grande partie. Et ça, aujourd'hui, j'ai eu la confirmation vraiment des oncologues qui m'ont dit, de toute façon, on sait que la moitié du chemin, c'est le patient qui l'a fait.
Alors, question imbriquée. Trop bon, trop con. Connais ta propension à aider les gens, à être dans l'empathie. On l'a vu avec les places offertes, hein, aux gens, tout ça. Est-ce que tu penses que des fois, on a un petit peu profité de ça? C'est-à-dire qu'on sait que si on va voir Véro et qu'on lui dit, voilà, moi, j'ai ça comme problème, immédiatement, il va y avoir une réaction.
Alors, je dirais oui et non, parce que... J'ai tendance à anticiper. C'est fou, hein, parce que bon, j'anticipe. Je sais quand il va y avoir un problème, je sais quand il va y avoir quelque chose. J'anticipe, donc si tu veux, les gens n'ont pas le temps de venir me voir. Moi, au bureau, je pense que c'est l'abbé Pierre chez moi. Je veux dire, je pense que j'ai aidé plus de personnes qu'on... Enfin, mais ça a toujours été... tu sais, dans ma carrière, j'ai vécu plein de choses. Mais je pense que la plus belle chose que j'ai eue en reconnaissance, c'est une dame qui n'est plus de ce monde, malheureusement, qui est décédée il y a quelques années, qui avait vécu à Calvi. Cette dame était une dame modeste. Elle se débrouillait comme elle pouvait. Elle travaillait beaucoup pour éduquer son fils. Et quand elle avait les assurances à payer, ben, elle nous faisait 2, 3, 4 chèques. Parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Et je ne me voyais pas dire non, parce que ça a toujours été ma philosophie. Et puis un jour, elle avait fait plusieurs chèques. Et un lundi matin, je la vois arriver au bureau. Elle me dit, je peux vous parler, Madame Astolfi? J'ai dit, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, écoutez, je suis embêtée. Il faudrait décaler le chèque d'un mois. Ah, mais je dis, il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr. Puis, je n'ai pas demandé ni pourquoi ni comment. Je veux dire, les gens ont leur vie. Moi, je ne voulais pas être intrusive. Je lui dis, bien sûr, il n'y a pas de problème, on va décaler. Puis là, elle me regarde, elle me dit, mais je vais vous dire pourquoi. Elle a dit, parce que je suis allée à Bastia, dans un magasin. Elle a dit, puis il y avait des soldes. Puis j'avais des choses qui m'intéressaient pour acheter à mon fils. Puis je me disais que si je les achetais là, ben, j'aurais un peu plus d'argent après, parce que je pouvais l'acheter en solde. Et là, je l'ai regardé, j'ai dit, mais je vous en aurais voulu si vous aviez fait autrement. Donc, c'est la confiance. Elle savait que j'allais lui dire oui. Et ça, ça a été tout le temps mon leitmotiv.
Alors, on sait qu'il y a des gens qui vont t'écouter. Moi, je suis pour le karma. Donc, il y a peut-être des gens qui vont me reprocher de ne pas poser une question. Et je ne la poserai pas, et je vais le dire pourquoi. Je ne la poserai pas parce que j'essaie de mettre des gens en avant, leur parcours, et de mettre que des choses positives.
Tout à fait.
Et je pense que la meilleure des choses avec certaines personnes, c'est l'indifférence.
Tout à fait.
Donc, aux gens qui me poseront la question « Pourquoi tu ne l'as pas posée ?» ils savent très bien de quoi je parle.
Tout à fait.
Elle est motivée juste par ça. C'est-à-dire que certaines personnes n'ont droit qu'à mon indifférence. Tout simplement. Ah, on va passer aux questions flash. Voilà, parce que tu te doutes bien que...
Il y a eu des balances.
Tu te doutes bien qu'il y avait des gens qui n'attendaient que ça, mais à un moment donné, il faut faire dans l'indifférence avec certaines personnes. On va passer aux questions flash. Si tu étais une qualité, quelle serait-elle?
Si j'étais une qualité...
On est toujours les plus mauvais juges, hein, de soi-même.
On est les plus mauvais juges. La générosité.
Un défaut?
L'exigence.
Est-ce que tu as un héros de fiction ou de vie réelle qui te suit depuis longtemps?
Mandela.
Ce que tu détestes le plus chez l'homme?
L'égoïsme.
Est-ce que tu as une phobie?
Les serpents.
Un péché mignon? Un truc pas résisté, si tu le vois, ça va être une cata.
Mon couscous.
Alors celle-là, je la mets depuis quelques temps. Est-ce que tu as une insulte favorite? On peut y aller, hein, c'est mon
oh,
émission.
Oh putain de merde.
La dernière fois que tu as pleuré, alors on a eu des petits prémices, hein, sur l'annonce de Flavia. Donc,
voilà. Je pense que je peux pleurer tous les jours quand je reçois des messages. Donc, comme j'en reçois tous les jours, je suis une pleureuse de toute façon.
Que dirais-tu à la petite fille qui était à 10 ans? Si tu veux revenir en arrière et lui dire quelque chose, qu'est-ce que tu lui dirais?
Qu'est-ce que je lui dirais à cette petite fille? À 10 ans, je rêvais d'être chanteuse. Je ne l'ai pas été, heureusement, pour le bonheur de beaucoup de gens. Mais j'aurais dit, de toute façon, on a la vie qu'on se donne et peut-être la vie qu'on mérite.
Véro, je te remercie. Moi, c'était un plaisir. Alors là, j'ai reçu deux bonbons, hein, Jennifer et toi, pour la dernière.
C'est moi qui te remercie. Moi, je remercie Jennifer parce que voilà, moi, Jennifer, je la connais depuis qu'elle est enfant. Et c'est une personne que j'adore. Et je trouve que ce qu'elle a fait là avec Redouane, c'est juste fantastique pour la ville. Et je crois qu'on a besoin de gens comme ça pour nous booster, pour nous tirer vers le haut.
Je voulais aussi, pour la dernière, remercier deux personnes. Les deux qui me subissent maintenant depuis octobre dernier, je crois.
C'est ça, oui. Hein,
Nagui et Anto, merci, ils m'ont ouvert les portes d'RCC. Je peux dire ce que je veux. J'ai nos filters là-dessus.
Ah, complètement.
Moi, en tout cas, je prends mon pied et je re-signe. Hein, je re-signe.
Ah bah évidemment, on attendait que ça.
T'es reparti pour une saison.
Ouais, je suis reparti. Ouais, je suis reparti pour une saison. Hein, je crois que j'ai pris goût, les gars. Hein, je suis désolé. Hein. Donc, sur ce, chers auditeurs, je vous remercie. Je vous fais de gros bisous. Alors, il y a toujours les quatre places. Alors, s'il n'y a personne à la porte...
Il y a quelqu'un qui est en train de monter.
Il y a quelqu'un qui est en train de monter. Ah, il y a quelqu'un qui est en train de monter.
J'ai reçu un message. J'arrive.
Donc, il y a quelqu'un qui est en train de monter. Donc, elles sont perdues.
Elle s'appelle Rosemary Gandolfi.
Donc, du coup, elle les a gagnées. Elle a fait l'effort de monter. Donc...
Alors, je lui dis, bon, avant 11h30, hein, tu viens.
Ah, on va pas faire les... On l'attendra. Chers auditeurs, moi, je vous remercie. Je vous remercie d'être à l'écoute, de temps en temps, les petits encouragements, les petits messages. Ça fait toujours plaisir. Lucho, j'ai passé ton message. Donc, maintenant, ça, tu as arrêté de me faire la gueule et de me harceler à 21h. Et je vous embrasse tous et je vous dis rendez-vous.
Véro, veux dire un petit mot, je crois.
Non, moi, je veux surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure en aparté, encourager nos Corses qui sont aux Jeux Olympiques.
Alors, il y a la petite karatéka.
Il y a la petite karatéka, Ferracci, et il y a Mourad, qui est sur le marathon, qui est sur le marathon, qui va doubler le 10 000. Enfin bon, il est à fond, hein, il est à fond. Donc je crois qu'il faut qu'on soit tous à fond avec lui. Hein.
Donc on va croiser les doigts pour les deux.
Oui.
Voilà, moi je vais rien dire sur Ferracci parce que même si c'est une fille, elle peut me mettre une pétée, je crois.
Exactement. Mais on va penser fort à eux pour les prochains jours. Je crois que c'est début août, hein, leur performance. Donc moi je voulais leur faire un petit coucou.
Donc on les embrasse très fort et Anto, un petit dernier mot peut-être.
Bah écoute, je suis très content que tu sois venu déjà. Pour cette première saison, tu as vraiment, vraiment assuré. Les gens sont devenus des fidèles auditeurs et je dirais accros à ton émission. Et je veux dire, comment je le sais, c'est simplement en voyant le nombre de likes sur les partages, notamment de chaque week-end, tu nous dis « demain, je reçois un tel ». Donc évidemment, nous, on répercute. Donc voilà, on s'en aperçoit. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui écoutent, beaucoup de gens également qui peuvent écouter les podcasts. Merci à Véro qui est venu pour cette dernière de la saison. Voilà, on l'a fini bien. Et puis François, on a de te retrouver. C'est quand que tu reviens?
Alors, je vais attendre que vous preniez vos congés. Voilà. Réunissez-vous. Ouais,
les congés.
Parce que moi, j'ai la rentrée et moi, c'est multiplié par trois la rentrée. Hein, tu le sais.
C'est vrai.
Il y a le grand voilà, qui va rentrer en sixième. Donc les emmerdes commencent là.
C'est vrai.
Moi, j'ai annoncé entre le 13 et le 20. Voilà, j'ai entre le 13 et le 20
septembre.
Mais quoi,
septembre,
oui.
Alors, ça va arriver vite alors, tu sais. T'as pas beaucoup de temps pour te reposer alors.
Hein. Bah non. Donc du coup, je vous souhaite malgré tout, malgré les conditions, une bonne saison.
On te retrouve, toi, au comptoir de l'aéroport notamment.
Comptoir de l'aéroport, voilà. Et, par contre, c'est payant. Hein.
C'est payant. Par contre, ce qui est gratuit, c'est les articles que tu signes pour Stamp Papaese. Hein.
Alors... pour l'instant, s'il y a des gens qui veulent se signaler, qui veulent mettre quelque chose en avant, qui n'hésitent pas, hein, on verra bien. Mmh. Et il y a toujours, parce que je rends un petit peu l'appareil, au Clos Coulombe.
Une magnifique exposition.
Toujours pas venu voir, je suis vraiment une merde.
Bah, on t'attend.
Hein. Moi non plus, on ira ensemble.
Ouais, voilà, venez, vous m'envoyez un message, hein, vous savez que je suis là, je peux venir quand vous voulez.
Et on fait ça. Chers auditeurs, je vous embrasse, à bientôt.
Salut.